Radio Vatican, France et Afrique.
À mes auditeurs, bienvenue et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre programme. L'actualité de l'Église sera centrée sur la prière de l'Angélus récitée dimanche depuis la fenêtre du palais apostolique par le pape, mais aussi sur la rétrospective de la vie de la famille de Dieu qui est en Afrique. Si le temps ne nous fait pas défaut, nous vous donnerons quelques brèves de ce qui a marqué la vie sociopolitique ces dernières heures sur le continent africain. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican. France-Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Le pape a récité dimanche la prière de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique avec les fidèles réunis place Saint-Pierre. Avant cette prière, en ce deuxième dimanche des carême, François a proposé un commentaire du mystère de la transfiguration au cœur de l'évangile du jour. Cet épisode de la vie de Jésus nous rappelle que la victoire de la résurrection succédera aux épreuves de la vie. Il s'agit aussi, selon lui, d'une invitation à porter au monde la lumière de l'évangile. Avant la souffrance du mont du calvaire, c'est en effet la lumière émanant du Christ que les fidèles sont appelés à contempler avec les disciples sur le mont Tabor. La transfiguration du Seigneur anticipe son image de ressuscité, a expliqué l'évêque de Rome. Face au mystère de la mort, de la maladie, de la douleur innocente, devant le scandale de la croix et les exigences de l'évangile, invitant au don de sa propre vie, nous nous effrayons souvent et nous trébuchons comme les disciples aux côtés de Jésus. Il s'agit alors de gravir la montagne avant de contempler la beauté du ressuscité qui allume des lueurs de lumière dans chaque fragment de notre vie et nous aide à interpréter l'histoire sur la base de sa victoire pascale, a soutenu le pape. Comme d'habitude, le Saint-Père a imparti sa bénédiction apostolique aux fidèles venus prier avec lui l'Angélus.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
À l'issue de la prière de l'Angélus, le pape a lancé un appel pour le Nigeria.
Unisco la mia voce a quella dei vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze.
J'ai joint ma voix, a dit François, à celle des évêques du Nigeria pour condamner le lâche enlèvement des 317 filles enlevées de leur école à Jangebe, dans le nord-ouest du pays. Prions pour ces filles afin qu'elles puissent bientôt rentrer chez elles. Je suis proche de leur famille et proche d'elles. Prions ensemble. Prions Notre-Dame pour qu'elle les protège, a déclaré le pape, avant d'inviter les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre à réciter avec lui un Ave Maria.
Preghiamo insieme, preghiamo la Madonna perché le custodisca.
Rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique.
Africa, tote le mani, Goga, Ebelemi.
Au Bénin, notre correspondant local nous a rendu compte de la contribution des confessions religieuses pour une présidentielle apaisée dans ce pays.
Sous l'égide de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, l'OCCG au Bénin et en présence de l'évêque du Porte-Novo, Monseigneur Aristide Gonzalo, secrétaire général de la conférence épiscopale du Bénin, les représentants des confessions religieuses, catholiques, musulmans, protestants, membres des cultes endogènes et des célestes, ont délivré devant la presse nationale et internationale le mardi 23 février 2021 au Kodiam à Cotonou un message intitulé « Contribution des religions à l'organisation d'un scrutin présidentiel inclusif, transparent et apaisé et un bon déroulement du processus électoral ». Sous la voix de leur coordonnateur, le père Nathanaël Yaovi Souédé, aumônier national des 4 personnalités politiques du Bénin, président de l'OCCG, on a pu entendre.
Notre pays a besoin de l'esprit de fraternité, de dialogue, de justice, de pardon mutuel et de la réconciliation dans les paroles, les projets et les actions de tous ses enfants pour assumer notre avenir.
Avant la prière œcuménique et interreligieuse de demande de pardon et de paix pour le Bénin faite à l'unisson des participants à la fin de cette conférence de presse précédée de plusieurs autres messages de paix et de réconciliation des responsables religieux, le président de l'Union islamique du Bénin a tenu à insister.
Quels que soient les enjeux, les intérêts et les bords, les élections passeront et les relations humaines devront continuer. Il importe donc de savoir gérer ces périodes pré- et post-électorales pour la paix sociale dans notre pays.
Guy Dosuyovo, Cotonou, pour Radio Vatican.
Monseigneur Timothée Bodika, évêque de Kikwit en République démocratique du Congo, a annoncé que des prières seraient organisées pour demander l'intercession des trois sœurs des pauvres de Bergame, reconnues vénérables le 20 février dernier par le Saint-Père, et pour espérer leur béatification. L'information nous a été donnée par notre correspondant local.
Au diocèse de Kikwit, dans la province du Kwilu, des prières seront organisées pour demander leur intercession et pour espérer la béatification des trois sœurs des pauvres de Bergame, reconnues vénérables le 20 février par le Saint-Père François. Les sœurs Floral Barondi, Clarangela Ghilardi et Dina Rosa Belleri. Elles ont été infectées par le virus Ebola alors qu'elles soignaient des malades en 1995. Monseigneur Timothée Bodika l'a déclaré à Kinshasa alors qu'il participait à une réunion du comité permanent de la conférence épiscopale nationale. L'évêque de Kikwit dit d'abord sa joie.
Kikwit est dans la joie parce que, comme nous disons, c'est des témoins de la charité. Être témoin de la charité, être martyr de la charité, veut dire que je suis capable, comme le Christ, à donner ma vie pour le bien des autres. J'ai dit au personnel soignant, j'ai dit à ceux qui visitent les malades, j'ai dit à tous ceux qui font la pastorale des malades, avec ces trois sœurs, les premières au moins, qui sont devenues vénérables, nous avons là un exemple, un modèle à suivre.
Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
La collecte de fonds initiée par la Conférence épiscopale du Burkina-Niger à travers l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES, en vue d'alimenter les fonds catholiques de solidarité Alfred Diban, a connu son apothéose le dimanche 28 février. Cette collecte de fonds a été lancée le 22 février dernier au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Des détails nous ont été donnés dans ce reportage.
En vue de faire face aux urgences induites par les crises humanitaires et autres situations de précarité qui surviennent dans le pays, mais aussi pour disposer de quoi participer à la solidarité dans l'Église universelle et dans le monde, l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso a mis en place une structure de secours d'urgence dénommée Fonds catholique de solidarité Alfred Diban depuis novembre 2018. Dans ce sens, le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Laurent Dabiré, évêque de Dori, a animé une conférence de presse lundi 22 février 2021 à Ouagadougou. Mgr Laurent Dabiré.
L'objectif principal du fonds au Burkina Faso, c'est de venir en aide aux personnes déplacées internes ou les personnes frappées par d'autres catastrophes naturelles ou des épidémies, en axant les interventions pour commencer sur la sécurité alimentaire. Et après la sécurité alimentaire, le fonds va au-delà pour permettre aux populations qui se sont trouvées dans la précarité pour une raison ou une autre d'être résilientes et de partir d'un bon pied.
Et qui peut participer à la constitution de ce fonds, Mgr Dabiré?
À ce fonds participent avant tout les fils et filles de l'Église Famille de Dieu, ensuite tout homme de bonne volonté, personne morale ou physique. À travers des canaux qui ont été indiqués, il y a des comptes ou encore un numéraire ou matériel pour être le plus large possible dans la collecte.
Cette campagne va du 21 au 28 février courant avec une quête impérée le 28 février dans tous les diocèses du Burkina. Paul de Ouagadougou pour Radio Vatican.
Rendons-nous au Sénégal où nous avons été informés de la publication d'une lettre pastorale des évêques de la province ecclésiastique de Dakar.
Les évêques de la province ecclésiastique de Dakar ont publié une lettre pastorale ce mercredi des cendres sur les migrants et les réfugiés. Les évêques interpellent les nations africaines, plus particulièrement le Sénégal, les communautés, les familles, pour qu'elles prennent leurs responsabilités face au phénomène de la migration et à ses conséquences. Pour les évêques, l'analyse des causes de la migration doit aussi interroger la conscience de l'Occident. Car, affirme-t-il, on assiste à un développement unipolaire de l'Europe, qui s'est tout de même enrichie en partie par l'exploitation des pays d'Afrique. On observe l'exploitation à outrance de nos ressources halieutiques, minières, forestières et culturelles, sans compter la fuite des cerveaux. Nos pays, poursuivent les évêques, se trouvent impuissants devant le phénomène croissant de l'accaparement des terres avec le développement de l'agro-business qui met en danger les petits producteurs locaux. Les évêques lancent des appels au pouvoir public à encourager le retour des cerveaux et aux dirigeants africains de promouvoir une bonne gouvernance de leurs États. Les évêques demandent aux jeunes de ne pas braver les dangers du désert et des océans. Clément Arwandino Daka pour Radio Vatican.
Le secrétariat de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a, dans un communiqué publié le 18 février dernier, annoncé l'élection du père Félix Koulibaly comme administrateur du diocèse de Kathiola à l'issue d'un scrutin conformément aux dispositions canoniques. Le père Koulibaly était jusqu'ici vicaire général et curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Kathiola. Le siège épiscopal de Kathiola est devenu vacant depuis le 14 février, date de la prise de possession canonique de l'archidiocèse de Korogo par Mgr Ignace Bessi, précédemment évêque de Kathiola. Voici le complément d'information reçu de notre correspondant à ce sujet.
Dans un entretien qu'il nous a accordé suite à cette élection, le nouvel administrateur du diocèse de Kathiola dit accueillir cette nouvelle dans un état d'esprit positif qui est toutefois teinté d'appréhension. Cela représente pour lui un service d'église à assumer, un grand défi à relever, une lourde charge à accomplir, a-t-il affirmé. Le père Félix Koulibaly a par la suite salué le travail immense abattu par Mgr Ignace Bessi Dogbo durant 16 ans à la tête du diocèse de Kathiola qui, animé d'une charité pastorale et ayant un sens aigu de l'église communion autonome, a tracé les sillons de l'autonomisation du diocèse de Kathiola. Sa mission, il entend l'inscrire, selon lui, toujours dans la continuité du sentier pastoral économique accompli par Mgr Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, dans l'union et dans un esprit de communion pour relever ensemble les défis inhérents à cette église particulière. Le bonheur d'un diocèse, c'est d'avoir un pasteur propre. Le père Félix Koulibaly en a profité pour exhorter le peuple de Dieu qui est à Kathiola à demeurer dans la prière afin que le maître de la vigne leur envoie un pasteur propre à sa vigne et qu'il le soutienne pour mener à bien cette transition. Notons que le diocèse de Kathiola vient compléter à 3 le nombre de diocèses vacants dans le pays après Odiné et Yamoussoukro. Cette église particulière compte à ce jour 57 prêtres pour 22 paroisses, 3 quasi-paroisses reparties sur une superficie de 32 832 km² et demeure l'un des plus vastes de la Côte d'Ivoire. Marcel Aristone Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le gouvernement tchadien a annoncé qu'au moins 2 personnes avaient été tuées et 5 autres blessées dimanche dans des échanges de tirs au cours d'une tentative d'interpellation de l'opposant Yaya Dilo Djerou à son domicile. Ce dernier s'était déclaré candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Près de 100 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été secourus dimanche au large de la côte ouest de la Libye, alors qu'une vingtaine de passagers sont portés disparus. Les migrants, en majorité africains, ont été secourus par des gardes-côtes de la marine libyenne et ramenés à la base navale de Tripoli. Une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations les a pris en charge à leur arrivée. Dans un autre registre, le processus interlibyen chapeauté par l'ONU, qui doit permettre de désigner un gouvernement de transition, a été entaché de faits de corruption, d'après des experts de l'ONU qui évoquent le versement de pots de vin à au moins 3 participants. direction République démocratique du Congo. Au moins 10 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans deux attaques attribuées au groupe armé Force démocratique alliée ADF dans la province de l'Ituri, au nord-est de ce pays. Des sources administratives et locales ont confirmé les deux attaques, précisant que des maisons ont également été incendiées par les assaillants. La Cour européenne de justice se penche une nouvelle fois dans les prochains jours sur les dossiers du Sahara occidental, les indépendantistes du Front Polisario contestant des accords Union européenne et Maroc permettant à Rabat d'exporter tomates, melons et poissons de l'ancienne colonie espagnole.
Radio Vatican, Français Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
L'opposant nigérien Mahamane Ousmane, déclaré battu à l'issue de la présidentielle le 21 février, a exigé samedi la libération de tous les détenus interpellés lors des violences qui ont suivi la proclamation des résultats. Le père jésuite Martin Bahati continue de nous présenter la lettre encyclique Fratelli Tutti du pape François.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la lecture du premier chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Ce chapitre est intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». La fois passée, nous avons lu la partie sur la globalisation et le progrès sans cap commun. Aujourd'hui, le pape nous parle des pandémies et autres chocs de l'histoire. Le pontife commence par montrer comment une tragédie mondiale comme la pandémie de COVID-19 a réveillé un moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. À cet effet, le pape dit ceci. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu'il n'est possible de se sauver qu'ensemble, sur la même lancée. Le pape montre que si tout est connecté, il est difficile de penser que cette catastrophe mondiale n'ait aucune relation avec notre façon d'affronter la réalité en prétendant que nous sommes le maître absolu de nos vies et de tout ce qui existe. Mais comme nous oublions vite les leçons de l'histoire, maîtresse des vies, le pape nous avertit que le pire après la crise sanitaire serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans les nouvelles formes d'autopréservation égoïste. Par la suite, le pape formule des vœux pour un monde différent, pour des relations différentes. Plaise au ciel, qu'en fin de compte, il n'y ait pas les autres, mais plutôt un nous. Plaise au ciel, que ce ne soit pas un autre épisode grave de l'histoire dont nous n'aurons pas su tirer leçon. Plaise au ciel, que nous n'oublions pas les personnes âgées décédées par manque de respirateurs, en partie comme conséquence du démantèlement, année après année, des systèmes de santé. Plaise au ciel, que tant de souffrances ne soient pas inutiles, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns envers les autres, afin que l'humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les voies au-delà des frontières que nous avons créées. À la fin de ce point sur les pandémies et autres chocs de l'histoire, le pape nous met en garde contre l'isolement et le consumérisme. Il dit à cet effet, « Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une communauté d'appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrons du temps, des efforts et des biens, l'illusion collective qui nous berce tombera de manière déplorable et laissera beaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide. En outre, il ne faudra pas naïvement ignorer que l'obsession d'un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et destruction réciproque. le sauve qui peut deviendra vite tous contre tous, et ceci sera pire qu'une pandémie.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Magazine de la femme, c'est ce que nous présente Marie-Josée Moindo Boisboileau.
Notre magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société nous conduit en Grèce pour parler de Sofia Bekatorou, championne olympique de voile en 2004, qui, en témoignant sur les abus dont elle a été victime, a ouvert la voie au hashtag MeToo dans ce pays. Aujourd'hui, âgée de 43 ans, Sofia Bekatorou a trouvé la force de prendre la parole publiquement et de témoigner devant le procureur d'Athènes le 20 janvier quand elle a réalisé que d'autres personnes étaient en danger. La double médaillée olympique de voile or en 2004, bronze en 2008, a révélé avoir subi harcèlement sexuel et abus dans une chambre d'hôtel pendant sa préparation des Jeux olympiques 2000 de Sydney. À la suite de ces accusations, la Fédération grecque de voile a demandé la démission immédiate de son vice-président Aristeidis Andamopoulos, accusé par Bekatorou. Devenu le symbole du mouvement MeToo en Grèce, la championne avait attendu d'être prête à parler pour mettre fin aux stéréotypes de la société grecque. Il faut comprendre que le sport est une extension de la société, souligne-t-elle, car en Grèce, des conditions sont plus compliquées pour les femmes. En révélant son viol, la sportive a provoqué une libération de la parole sur les violences sexuelles en Grèce. 3 ans après la naissance du mouvement MeToo aux États-Unis, les langues se sont déliées chez les sportives, les étudiantes, les journalistes et les actrices. Parmi les principaux accusés, l'ancien directeur du théâtre national Dimitris Lignadis, placé en détention pour viol sur mineur. Ça a pris une grosse ampleur. Très vite, s'exclame-t-elle, je suis heureuse car beaucoup de personnes s'expriment publiquement, parlent des agressions suivies et se tournent vers les autorités, se félicite Sofia Bekatorou qui souligne qu'en Grèce, le pays a beaucoup de progrès à faire pour que des femmes assument des postes importants et montrent la voie, se félicitant toutefois qu'une femme soit actuellement présidente de la République. Le gouvernement du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé jeudi une série de mesures allant du durcissement des peines pour les agresseurs sexuels au rallongement du délai de prescription pour les agressions sur mineurs. Mais Sofia Bekatorou peut ajouter une ligne à son palmarès comme initiatrice du mouvement MeToo en Grèce. Elle assure vouloir poursuivre son engagement pour lutter contre les violences sexuelles, essayer d'aider là où c'est nécessaire, résume-t-elle, pour que d'autres femmes puissent avoir des rêves.
Nous cédons maintenant la place à Donatien Niembo pour la revue de la presse catholique africaine.
CEAM, la société civile africaine et les leaders religieux font part de leurs préoccupations avant le sommet UE-UA, peut-on lire dans la online newsletter de l'AMECEA dans son édition du vendredi 26 février, et c'est par là que nous ouvrons cette nouvelle édition de la revue des presses catholiques africaines. Avant le prochain sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, qui a été reporté l'année dernière en raison de la pandémie de COVID-19 et qui est prévu pour cette année, les représentants des diverses organisations confessionnelles et organisations de la société civile en Afrique ont fait part de leurs préoccupations suite à un détournement de l'ordre du jour proposé précédemment, rapporte la MECEA. Dans une déclaration commune des membres d'une large alliance publiée le jeudi 18 février dernier, les organisations déplorent que la stratégie 2020 de l'Union européenne avec l'Afrique ait échoué à traiter des systèmes agricoles et alimentaires, mais se soit plutôt concentrée sur la création d'un environnement favorable aux intérêts commerciaux du secteur privé à grande échelle, peut-on lire. L'engagement des confessions religieuses pour la paix, c'est ce qu'a titré la Croix du Bénin dans les colonnes de son édition du vendredi 26 février dernier. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance en collaboration avec le cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin a organisé le mardi 23 février 2021 à l'hôtel Kodiam de Cotonou une conférence de presse pour inviter les acteurs impliqués dans le processus électoral et la population béninoise à cultiver la paix tout au long du déroulement de l'élection présidentielle d'avril 2021. Dignitaires des cultes endogènes, pasteurs et membres de la société civile ont répondu présent à l'appel, peut-on lire dans cet hebdomadaire béninois. Lettre pastorale de Mgr Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, chrétien de Brazzaville, vise enfin ton baptême. C'est ce qu'affichent les colonnes de la Semaine africaine dans son édition du mercredi 24 février dernier. Dans la 38e année de son épiscopat, Mgr Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, a adressé une lettre pastorale aux prêtres religieux et religieuses, aux membres des conseils paroissiaux et à tous les fidèles laïcs de l'archidiocèse. Elle est intitulée « Chrétien de Brazzaville, vise enfin ton baptême ». Chers frères et sœurs, au moment où je m'apprête à confier cette barque de notre Église à mon successeur désigné, Monseigneur Bienvenu Manami Kabafuakuaou, je voudrais revenir sur ce qui fait le fondement de notre vie chrétienne et de ma charge d'évêque, le baptême.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Jean-Pierre Bojoko vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.